Nous sommes trois professionnels de l'éducation dans le sud de l'Ontario.
Mylène Brassard,
Vicky Fauteux
et Jennifer Davies. Puisque nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe.
Quoi?
OK. En effet, nous avons
toute la classe.
Nous allons vous proposer des épisodes sur des thèmes ponctuels en éducation, tels que la planification,
l'évaluation,
l'intégration de la technologie,
la persévérance
et bien plus encore.
Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de la discussion sur notre page Facebook.
Bonjour tout le monde! OK. Avant de commencer, un gros remerciement à tous et à toutes qui ont suivi nos discussions pendant notre série sur l'évaluation. Alors, on a eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer, on a eu beaucoup de plaisir à le monter, à le promouvoir, à imprimer des tasses, à imprimer des sacs. Alors, puis on a vraiment hâte de continuer notre projet, puis on a vraiment hâte que vous continuez à suivre nos discussions. Alors, la dernière fois, lorsqu'on a fini notre série sur évaluation, on vous avait dit qu'on gardait le sujet de cette nouvelle série comme surprise. Mais là, c'est le moment. Alors, sans tarder, on va vous dévoiler le sujet de cette nouvelle série. C'est la
planification!
Les effets sonores, je pense qu'on...
On n'a pas un gros budget.
Ils sont d'une très grande... c'est grâce au bruit de bouche. Oui. Commandité par bruit de bouche.
Oui, oui, commandité par... Ben, par nous trois, oui. Alors, on a choisi ce sujet parce qu'on pense que c'est vraiment une suite logique. Et on pense que c'est aussi ces discussions qu'on va avoir, c'est... Ça va aussi susciter beaucoup de réflexions. Puis on pense que ça va vraiment vous aider dans vos pratiques. Alors, pendant les prochains épisodes, nous allons parler de différents types de planification. Mais pour commencer, cette fois-ci, pour pouvoir faire le pont entre la série évaluation et la série planification, nous allons nous concentrer sur un élément important qui nous aide souvent dans la planification de nos actions en salle de classe. Alors, mesdames, lorsqu'on parle du profil de classe, que connaissez-vous?
Le profil est vraiment la consolidation ou la compilation des observations dans les premières semaines de l'école. Et c'est des observations non seulement à propos des habiletés académiques des élèves, mais aussi leur goût, leurs intérêts, leurs habiletés sociales, etc.
Tout à fait. Puis pendant qu'on crée le profil de classe, c'est un moment parfait pour introduire tout ce qui est l'environnement d'apprentissage avec les élèves, la relation éducative, on apprend à les connaître, eux apprennent à nous connaître. Mm-hmm. Et puis, par rapport à ça, ça va guider ce qu'on va mettre en place pour le restant de l'année scolaire.
Mm-hmm. Parce que si la plupart de tes élèves n'aiment pas une activité ou n'aiment pas, par exemple, un sport, mais on va pas parler de ce sport-là pendant l'année.
Ça dépend. C'est-tu
un bon exemple?
Est-ce que faire des fractions, c'est un sport?
Ouais, non, mais lorsqu'on essaie d'accrocher l'intérêt de nos élèves, on peut toujours utiliser leurs intérêts. Alors, s'il y a personne... Si moi, je suis fanatique du golf, et je ne le suis pas...
Ça serait un mensonge.
Ça ne me ressemble vraiment pas. Mais j'ai le goût d'en parler tout le temps dans ma salle de classe. Mais ce n'est pas vraiment moi, ce n'est pas vraiment mes intérêts qui devraient prendre préséance dans la salle de classe. C'est vraiment aller chercher mes élèves par le biais de leurs intérêts.
Absolument, parce qu'il faut que ces élèves-là se sentent chez eux quand ils arrivent dans la salle de classe.
Si c'est un intérêt que nous autres, on ne connaît rien là-dedans.
Ben, il va te le dire. Écoute-le.
Ah, ben oui. Alors, c'est planifié, oui. En effet. C'est pas, en passant, ce n'est pas une question stupide. Absolument pas, non. Passons à la deuxième question. Alors, c'est quoi le but? Alors, on a comme répondu un petit peu, c'est quoi un profil de classe, mais c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? On a comme répondu à ça un petit peu, mais quel est le but de ce profil de classe-là?
Bien, c'est vrai qu'en début d'année, on est très occupé et on nous demande de remplir plein de gabarits, plein d'annexes. Et parfois, ça semble juste être une autre tâche qu'il faut qu'on fasse, mais en réalité, c'est d'une importance primordiale. Parce que ce n'est pas juste le curriculum qui va renseigner, qui va guider notre planification. C'est le curriculum en fonction du profil d'élève.
Mm-hmm.
Tout à fait. Puis ça paraît un peu bête de dire ça comme ça, mais si on ne prend pas le temps de le faire, généralement, on va juste mettre sur la liste et on ne va jamais s'y rendre. Mais en remplissant les gabarits, on a besoin de s'arrêter pour voir qui sont les élèves qui ont besoin de tel besoin. Et en l'écrivant, ben, ça laisse des traces.
Oui.
Et c'est avec les traces, c'est après ça qu'on peut s'analyser, à savoir, ben, est-ce que cet enfant-là est encore... En début d'année, on s'inquiétait pour tel niveau. Est-ce qu'on s'inquiète encore en janvier? Est-ce qu'on s'inquiète encore en décembre? Ben, en fait, décembre, c'est après, genre... Par décembre, je voulais dire
on s'inquiète
juin.
De toi.
C'est, voilà. Alors, si on s'inquiète en janvier, si on s'inquiète en juin, c'est fou comment... Parce que si... C'est sûr que j'y pense dans ma tête. Je vais y réfléchir, mais parce que ces besoins sont écrits, c'est toute autre habileté que j'ai besoin de faire pour... Comme j'ai besoin de passer à travers d'autres réflexions pour pouvoir l'écrire.
Et c'est vrai que souvent, tu sais, on se dit, oui, mais moi, je connais mes élèves, mais les connaître dans ta tête puis l'écrire sur du papier, ça change quelque chose.
Ouais.
Parce que l'autre point que je voulais amener, c'est que quand j'ai eu ma première classe, c'est sûr que j'avais tellement hâte de les rencontrer puis de leur enseigner. Et je me suis assise pendant l'été et j'ai fait ma planification pour l'année. Ce qui est bien, il faut connaître ton curriculum avant de commencer. Mais je n'avais pas compris à l'époque que je dois prendre le curriculum, puis surtout, disons, moi je pense toujours littératie, c'est ma première réflexe, mais si j'ai des élèves qui ont un tel besoin, puis ça c'est le besoin flagrant, je vais faire ma planification en sorte qu'on va travailler un texte et des notions grammaticales qui vont combler ce besoin.
Ah, tout à fait.
Ouais.
Puis je pense pas que l'idée que, par exemple, pendant qu'on s'assoit l'été pour planifier nos trucs, l'idée de mettre tel domaine en sciences avec tel truc en mathématiques ou quoi que ce soit, c'est un bon exercice, mais que faut garder en tête que tant aussi longtemps qu'on n'aura pas rencontré le groupe d'élèves à qui on va enseigner pendant l'année, ça reste du peut-être.
Oui, c'est ça.
C'est parce que mes stratégies d'enseignement, les stratégies d'apprentissage vont changer parce que tout dépendant qui est devant moi, ben, il va falloir que je m'ajuste. La différenciation, peut-être que j'en avais pas planifié pendant l'été, mais avec mes petits loups dans ma salle de classe, je vais avoir besoin de prévoir tout ça parce que tout ça, c'est des choses qui se planifient. Là.
Mm-hmm. Parce que, en fait, ton groupe change à chaque année. Je sais que certaines personnes n'aiment pas beaucoup utiliser ce mot-là, mais ta clientèle change aussi.
Oui.
Alors, la façon comment tu vas livrer la marchandise va aussi changer.
Absolument.
Comme mes blagues que j'utilise une année, mais elles ne fonctionneront pas l'année prochaine parce que...
Mais ça, peut-être que oui.
Peut-être que oui.
Mais peut-être que non.
Blagues, je les raconterai quand même.
Oui, mais il faut s'essayer. Alors, en fait... C'est peut-être pas officiellement. Ça ne rend pas officiellement dans votre profil de classe, mais...
Les blagues?
Essaye une ou deux, juste pour commencer.
Mais tu sais, j'ai fait des projets dans les années passées, puis c'était des projets d'envergure, là, où on avait... pendant la fin de semaine, j'avais coupé des... Les enfants avaient choisi des structures, puis on les avait faites en vrai bois, avec des vraies charnières. Puis c'était un projet de con... C'était fou, complètement fou. Mais il y a une année où je l'ai fait, puis j'ai laissé les élèves choisir le prisme de leur choix, parce que c'était des élèves qui, écoute, peu importe ce que je proposais, ils embarquaient, puis c'était oui. Puis l'année d'après, on a senti que... comme c'est peut-être moi qui n'étais pas allée assez loin au niveau des connaissances, au niveau des solides et tout, mais on sentait que comme c'était moins...
Il hésitait un peu plus.
Ben, c'est ça, comme le petit feu, la petite flamme pour ce projet-là, elle ne fumait pas trop fort. Alors, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de laisser air ouverte là, à toute la réflexion, carte blanche, à tout ça, on est allé un peu plus structuré. Mais ça, c'est le même projet, mais je l'ai adapté en fonction du groupe qui était devant moi.
Ah, bon exemple.
C'est pour ça que peu importe si on enseigne au même niveau plusieurs années de suite, c'est jamais facile, c'est jamais moins de travail parce que quand le groupe change, ben, tout ce que vous allez faire va changer aussi.
Ouais.
Si tout était pareil, ça veut dire que on n'est pas allé creuser assez fort.
Un autre point que j'aimerais mentionner avant de passer à d'autres choses, parce que je sais que tu regardes ta liste de questions, Vicky. C'est pas vrai. C'est que l'autre raison pour laquelle c'est important de connaître ta classe puis d'avoir un beau profil de classe bien étoffé, c'est parce que ça vous aide avec la gestion de classe.
Oh oui.
Si vous ne connaissez pas les élèves, vous n'êtes pas en mesure de leur proposer des tâches significatives pour eux. Et la plupart du temps, quand je suis appelée à aider un enseignant débutant avec la gestion de classe, c'est ça qui est flagrant dès le début, c'est que l'enseignant connaît son curriculum, qui était comme motivé, il voulait commencer tout de suite. Et je dis enseignant, mais ça pourrait être une enseignante aussi. Mais il faut prendre le temps de créer ce lien affectif avec chacun des élèves. Et c'est en sachant que tu les connais, que tu as pris le temps pour t'investir dans leur vie, que tu crées ce lien.
Tout à fait. Parce que la relation éducative, l'environnement propice à l'apprentissage ne va pas se construire en criant « pinote ».
Oui, non.
Parce que ça prend du temps. Il faut alimenter cet espace-là. Et ça, à mon avis, c'est... Puis c'est ça. C'est pas pour rien qu'on dit que les évaluations diagnostiques en début d'année, on peut s'attendre à ce que ça soit les deux premières semaines.
Oui.
Mais c'est ça. Mais c'est pas juste pour faire l'évaluation, c'est pour créer ce lien-là, apprendre à connaître les élèves. Puis choisir, comme les règles, on fait pas juste les lancer aux élèves, là, on les construit ensemble parce que c'est leur classe. Puis tout ça, là,
Ça part de ton profil.
Absolument.
Est-ce que... Pas pour comme vous lancer un... Un curveball.
Une balle courbe.
Une balle courbe. Ah, c'est ce que ça se dit
en français? J'en ai aucune idée, j'écoute.
Une balle courbe.
je ne sais pas.
Alors, si c'était un des intérêts de tes élèves, là, on aurait.
On l'écouterait parler, puis on dirait. Balle courbe, oui, je sais exactement dans ce
sens. Exactement. Mais je me demande, là, on a parlé du fait que oui, le profil de la classe, on est établi au début de l'année, mais le fait de connaître leurs intérêts, puis de les connaître, de les mieux connaître, en fait, on peut le faire à n'importe quel moment de l'année. Ça ne veut pas dire que, oh, on a commencé l'année, puis là, on est déjà rendu au mois de décembre, mais là, c'est trop tard pour les connaître. C'est-tu... Est-ce que juste comme... En fait, le profil de classe, même si préférablement, on le fait au début de l'année, mais en fait, on peut le faire à n'importe quel moment. Ce que je veux dire que, non, attendez pas jusqu'au mois de décembre, c'est juste que...
Il n'est jamais trop tard.
C'est ça, exactement.
Mais tu sais, quand on dit, là, au début d'année... Bon, moi, ça a pris quand même un peu de temps dans ma carrière d'enseignante pour savoir que j'avais accès au DSO puis que c'était une bonne idée que d'aller fouiller dedans. Mais, tu sais, d'ouvrir les DSO, d'aller voir ce qui s'est passé. Mais à mon avis, c'est la même chose que si j'achète un nouveau meuble. Là, je vais aller faire des recherches en ligne pour voir quel modèle s'adresse le plus à mes besoins. Je vais aller acheter tel fauteuil en cuir parce que c'est plus facile à nettoyer les poils de mes chiens ou peu importe. Mais c'est la même chose avec mes élèves. Et là, je dis pas que je veux acheter des élèves. Hein. C'est pas ce que je dis. Mais que l'idée, c'est de faire la recherche, de voir qu'est-ce que cet enfant-là a besoin, qu'est-ce que je peux lui amener, puis d'aller chercher ces documentations-là. Puis, c'est ça, le DSO est une bonne source, mais l'élève lui-même, il va te le dire, puis... Peut-être qu'en septembre, il va triper sur les trains. Peut-être qu'en décembre, ça ne l'intéressera plus du tout. Fait que ça va évoluer tout ça.
OK.
J'aimerais beaucoup faire du pouce sur deux choses que tu viens de dire.
Ça tombe bien de deux pouces.
j'en achète plusieurs. je suis très contente que tu aies soulevé le point qu'il faut consulter le DSO. On a un devoir...
Oh, par DSO, on veut dire dossier scolaire de l'Ontario.
Oui. On a un devoir légal de connaître tout ce qui... Pas tout ce qu'il y a, mais d'être au courant de ce qu'il y a dans le dossier de l'élève parce qu'il y a des documents légaux qui se trouvent là-dedans.
Absolument.
Si on ne connaît pas nos élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont des difficultés d'ouïe, qui ont une restraining order...
Des commandes de la cour sur les parents responsables.
Exactement, et ça se peut. Il y a des gens qui disent, ben je ne veux pas avoir de préjugés envers mes élèves avant de commencer à les connaître, mais nous sommes des professionnels. On peut toujours avoir des attentes élevées pour tous nos élèves, peu importe ce qu'on voit dans le DSO.
Oui, puis en plus, c'est pas parce que... Tu sais, je me souviens, tu sais, quand tu étais à l'université, disons, on faisait des recherches, puis on dit, mais pourquoi est-ce que tu as pensé à ça? Puis là, je me souviens qu'il y avait quelqu'un d'autre qui me dit, ben, c'est parce que l'Internet me l'a dit. Ben, en fait, elle est où ta pensée critique? Elle est où pour filtrer l'information? Alors, c'est pas parce que le bulletin d'un certain élève ou le DSO d'un certain élève te dit quelque chose, tu vas le prendre à la valeur que
mais
que
ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, n'est-ce pas? De voir que ce qui est écrit va forcément se réaliser et tout. Mais tu sais, il y a des façons d'être comme professionnel dans tout ça. Je peux prendre le DSO, le lire, mais ne pas écouter ce que mes collègues vont dire de ce qui s'est passé l'année d'avant, que lui, c'est tellement un terrible. Ben, mon effet Pygmalion, puis si je veux pas avoir des jugements tout faits, ben, je vais peut-être plus me fier à ce qui est écrit dans le DSO que ce que ma collègue a dit.
Je me suis acheté un troisième pouce parce qu'il me reste deux autres choses à dire. l'autre chose que je voulais dire quand Mylène, tu avais dit que l'enfant est une bonne source d'information, on n'a pas encore mentionné les parents. Les parents.
Bon point.
Oui, parce que surtout avec nos très jeunes, ils ne savent pas comment se décrire.
C'est vrai.
Ils ne savent pas toujours comment exprimer leurs besoins, leurs sentiments, leurs intérêts. Alors, non seulement c'est une bonne source de l'information, mais impliquer les parents tout de suite, ça aide à bâtir cette relation aussi.
Mm-hmm. J'en ai jamais rempli parce que je ne suis pas parent. Les parents qui reçoivent comme un questionnaire de l'enseignant.
Ouais.
Là, on ne parle pas d'un questionnaire de 5 pages. Là.
Peut-être mais en maternelle, juste... c'est ça. Il y a le document qui s'appelle le dépistage précoce.
Oui.
En fait, c'est juste des questions à savoir est-ce qu'il est capable de mettre son manteau tout seul. Est-ce qu'il...
Oui.
Juste pour avoir comme un point d'entrée.
Oui.
Mais moi, ce que je faisais avec mes élèves, c'est que j'envoyais les documents, j'envoyais les devoirs aux parents.
Oui.
Puis je leur demandais... comme des questions, pas comme des questions sur l'enfant, là, de savoir c'est quoi ses intérêts, c'est quoi ses goûts, c'est ce qu'il aime faire à la maison, juste pour, un, que le parent se sente concerné, que c'est pas parce que ça se passe à l'école que, ça se passe à l'école, puis qu'il y ait un pont entre l'école et la maison.
Est-ce que tu avais fini tes deux?
Non.
T'avais, parce que tu avais un troisième
pouce. J'ai un troisième pouce.
Il reste un pouce!
Il reste un pouce!
Et avec mon troisième pouce, j'aimerais faire un lien entre ce que Mylène vient de dire et les recherches de John Hattie, qu'on avait mentionné la dernière fois aussi. Quand tu parlais de l'effet Pygmalion, c'est que c'est vraiment le sentiment d'efficacité du personnel de l'école, puis les attentes qu'on a pour l'élève, les attentes élevées qu'on a pour l'élève, sont numéro 2 et numéro 3, je pense, sur son de degré d'efficacité selon ses recherches. Alors, si l'enseignant regarde le DSO, puis regarde les résultats, disons, en lecture de l'évaluation diagnostique, et dit « pauvre petit, il ne va jamais pouvoir progresser, puis il n'y a rien que je peux faire, c'est un niveau 4 GB+, puis je n'ai pas beaucoup d'espoir pour lui », c'est sûr et certain qu'on ne va pas amener l'élève très loin.
Non.
Tandis que si on dit que j'ai regardé ses évaluations diagnostiques, je vois que c'est ça qui lui empêche de progresser, je vais le travailler. Puis par la fin de l'année, je pense que je vais pouvoir l'amener à un niveau 10. Mais peut-être que je ne vais pas me rendre au niveau 10 ou lui ne va pas se rendre au niveau 10, mais les chances sont bonnes que je vais le rendre beaucoup plus loin que l'enseignant qui pensait qu'il n'y avait pas d'espoir.
Et ça, les recherches l'ont prouvé que, comme un enseignant qui avait entendu dans les recherches là, que cette classe-là, tu ne seras jamais capable de rien faire avec eux, sont difficiles et tout, les recherches en bout de ligne ont prouvé que c'est justement ce qui s'est passé. Tandis que le même profil d'élève dans une autre classe où on a dit « Hey, ces enfants-là sont vraiment forts, tu vas être capable de. » Puis c'est ce qui s'est passé. Ça devient des prophétie auto-réalisatrice. Et puis, c'est ça, c'est super puissant. Alors, aussi bien de le prendre du côté positif, sachant que, voilà.
Alors, on avait, sautant un petit peu, qu'on avait encore une autre fois répondu un petit peu durant notre conversation. Alors, on avait parlé du DSO. On avait parlé d'un questionnaire qu'on pourrait envoyer aux parents. On avait parlé de beaucoup de, probablement, discussions, puis d'autres... je pense que c'est ça que je cherche, les autres activités. Alors, autre que le DSO, autre qu'un questionnaire, autre que des discussions avec nos élèves, est-ce qu'il y aurait d'autres façons pour établir notre profil de classe? À travers des activités, à travers des... Comment est-ce qu'on pourrait le faire?
Bien, par profil de classe, est-ce qu'on entend comme cet environnement propice à l'apprentissage-là?
Oui.
Parce que le profil de classe, mais là, j'apprends à connaître mes élèves. Alors, si je sais pas moi, ces élèves-là, il y a un pourcentage qui aiment le camping, je sais pas, des intérêts que ces enfants-là ont, moi, ce que je peux faire pour aller créer comme des rituels ou aller créer des choses comme ça, je peux aller prendre leurs intérêts puis les transformer en rituels. Dans une de mes classes avant, ce que j'avais, c'est que j'avais des élèves qui aimaient le camping. Fait qu'à tous les vendredis après-midi, on allait s'asseoir dans ma tente, qui n'était pas si grande, mais on faisait de la place pour tout le monde. Et puis, on allait se parler de notre semaine, de voir... Et cette relation-là, c'est quelque chose qui doit être travaillé. Mm-hmm. Comme l'élève dans ma classe ne va pas comme instinctivement aimer son enseignant. C'est pas vrai.
Mm-hmm.
C'est pas vrai. Il faut construire cette relation-là, puis il faut la nourrir.
Et je pense qu'il y a plein de façons de commencer à connaître les élèves. Et, de façon ludique, d'aller voir des petits échantillons aussi de leur communication orale, de leur écriture et de leur lecture.
Oh, j'étais à côté de la plaque quand j'ai posé la question.
Non, pas du tout.
Non. Ça rentre là-dedans.
Ah, OK.
Non, oui. Parce qu'on avait dit, il y a deux volets de ce profil. Il y a le socio-affectif,
oui, oui.
Puis il y a l'académique. C'est, oui. C'est deux choses qui sont complémentaires.
Absolument.
Et il faut connaître les élèves dans ces deux volets-là. Mais...
Oui. C'est un très bon point. De savoir que les deux... Puis je pense... Je sais pas. Est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre? Je pense pas.
Je pense qu'ils sont à poids égal.
Socio-économique, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Socio-affectif, je pense que c'est super, super important. Parce que surtout quand on parle de, t'sais, des élèves en plus jeune âge, ils aiment venir à l'école. Alors faisons du pouce là-dessus. Mais rendu en 4, 5, 6e année, l'intérêt est moins là. Je préférerais rester à la maison jouer aux jeux vidéo. Alors là, ça devient que... Il faut que cet environnement dans la salle de classe, il faut que les élèves aient le goût de venir à l'école. Il faut qu'ils soient contents de venir voir l'enseignant.
Absolument.
Puis comme le cerveau est construit pour que, bon, s'il n'y a pas un lien affectif avec l'apprentissage, ça délite, ça s'en va, ça se supprime, bien, prenons ça en compte. Puis l'affectif, bien, comme on peut le voir là, sur les réseaux sociaux, là, les enseignants qui saluent chaque enfant chaque matin d'une façon différente. Il y a plein de petites vidéos cute qu'on voit en ligne. Bon, personnellement, j'ai une mémoire de poisson, alors je pense pas être capable de faire des choses comme ça. Mais juste le fait de prendre une minute...
Oui, puis d'avoir l'air d'être contente de les voir
oui!
le matin.
Mais je suis contente de les voir.
Non, mais je veux dire que t'as pas besoin de 4 pichets de café pour avoir un sourire dans le visage.
Non. En parlant de socio-affectif, je pense que, comme tu disais tantôt, tu sais, c'est au moyen... Je trouve que c'est important, tu sais, les élèves au moyen, même si les élèves au secondaire, je trouve que c'est vraiment d'aller chercher un côté qu'eux autres, ils peuvent avoir à l'école, qu'ils peuvent pas avoir à la maison en jouant des jeux vidéo. Comme je trouve que, tu sais, nous autres, on peut créer une communauté dans laquelle ils se sentent respectés, ils se sentent, et qui se sentent s'appartenaient.
Le sens
d'appartenance. Ouais. Mm-hmm. Puis, la raison pourquoi je dis ça, c'est... Je pense qu'on avait beaucoup parlé dans d'autres discussions qu'on a à l'extérieur de notre balado. Au début de l'année, on fait toujours... Tu sais, on dit tout le temps que vraiment, les premiers jours, vraiment, l'apprentissage, ça va... C'est vraiment... On les laisse de côté. C'est pas le temps d'apprendre. Mais en fait, c'est le temps d'apprendre, mais c'est pas le temps d'apprendre académique. C'est le temps d'apprendre à se connaître, à avoir... À bâtir cet environnement-là. J'ai comme fait un gros discours sur une chose que je voulais dire. Les activités de la pédagogie culturelle qu'on avait parlé... Mm-hmm. Ce sont des activités que je trouve que ça m'a toujours beaucoup aidé, que des fois on essaie de cibler, on essaie de faire comme un petit peu mousser justement la communauté qu'on veut créer, mais il y en a qui vont embarquer, il y en a qui vont embarquer moins. Tandis que moi, je trouve que ces activités-là, ça m'a beaucoup aidé parce que peu importe des élèves qui sont un peu plus timides ou des élèves qui sont un peu plus introvertis, extrovertis, ils vont embarquer, peu importe. Puis, en dedans de quelques jours, déjà là, ils se sentaient comme s'ils faisaient partie de cette classe-là, puis s'ils faisaient... qu'ils me connaissaient déjà très bien. Alors...
Mais tu vois, l'idée du rituel que je parlais tout à l'heure, là, c'est de là que je l'ai appris.
Ouais.
Puis dans le... Pardon, puis ce qu'on faisait aussi, c'est tout ce qui est comme par exemple le conseil de coopération, où mm-hmm. on discute ensemble des problèmes de la classe, de ce qui va bien, ce qui va pas, mais juste l'idée que l'adulte se prête au jeu, que c'est possible de critiquer l'adulte de manière constructive dans le conseil de coopération, ça fait toute la différence.
Oui.
Parce que j'ai enseigné, ben en fait, à l'époque, j'ai fait la suppléance dans une classe où l'adulte refusait qu'on parle d'elle ou de lui dans le conseil de coopération, mais ça fait toute une différence. Là, tu es en train de dire aux élèves que l'adulte qui fait partie de la classe est à un niveau, il y a une hiérarchie différente que les élèves.
Mm-hmm, mm-hmm.
Tandis que c'est l'inverse qu'on veut dire aux élèves. On veut dire que toi et moi, on est tous les deux apprenants, on est là ensemble, puis on va passer à travers cette année-là ensemble, côte à côte, puis on va le faire.
Mm-hmm.
J'ai dit ensemble 4 fois dans ensemble, la même phrase. Oui.
Non,
ensemble,
mais c'est encore une autre fois. Mentalité de croissance, la réflexion pour nous, pour eux aussi. Puis justement, à la dernière série, on avait parlé de ça un petit peu, comment que on devrait s'auto-évaluer puis de bâtir nos objectifs d'apprentissage personnel. T'sais, tout mm-hmm. ça, t'sais, on avait parlé de ça, mais c'est en lien avec le fait que, comme par exemple, si on parle des conseils de coopération, à la fin de chaque semaine, on s'assoit puis on dit, OK, on est rendu là, où est-ce qu'on aimerait ça se rendre?
Mm-hmm.
Puis le but ultime à la fin de l'année, à la fin du mois, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est comme avoir une entreprise. Si tu n'as pas de cible, mais en fait, tu es en train de juste pédaler pour mm-hmm. aller nulle part. Ouais.
Alors, mais ce que j'aime ouais. avec le profil de classe, c'est que ça crée... Parce que là, on a parlé d'évaluation, puis là, ce qui s'en vient, ça va être la planification. Fait que, comme tu as dit, c'est la suite logique. Ben, j'utilise l'évaluation pour faire mon profil de classe.
Oui.
Puis j'utilise mon profil de classe pour pouvoir ouais. aller planifier de manière intentionnelle.
Oui. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, parce que je veux pas évidemment cibler en disant ces enseignants, mais je pense que il y a beaucoup d'enseignants, des fois on voit ça un petit peu l'inverse. Il faut planifier pour pouvoir évaluer, tandis que en fait on devrait vraiment le voir comme plutôt comme un cercle, un cycle. T'sais. On évalue mm-hmm. pour avoir un profil, on profite pour mm-hmm. parler de planifier.
Mais tu vois ce que Marius Bourgeois disait dans un de ses billets de blog, on a parlé de Inukshuk pendant la dernière série, puisque Marius a proposé dans un de ses billets de blog, c'est « Et si on le mettait à l'envers,
mm-hmm.
l'Inukshuk? » Puis qu'on commençait par se cibler un objectif, puis après ça, comme de faire le découlement pour pouvoir faire une espèce de plan effet à rebours par rapport à nos besoins puis à nos...
Est-ce que tu viens de nous dire un sujet de discussion qu'on va avoir dans un autre épisode?
Je m'excuse!
Non, mais ça va. Alors,
nous parlerons peut-être de planification à rebours dans un prochain épisode. À chaque fois que j'ai dit un prochain épisode, en fait, je voulais dire un prochain épisode.
Avant de terminer, j'aimerais juste que tu nous parles de ce que tu avais dit avant l'enregistrement. Tu avais posé la question après avoir établi le profil. C'est qui va le regarder par la suite?
Parce que souvent, on a l'impression qu'on construit le document profil de classe pour l'administration, pour la direction de l'école. Mais la vérité, c'est que c'est une demande de la direction, mais que c'est qui nous oblige à s'arrêter puis à réfléchir. La personne qui va le lire, qui va l'utiliser, c'est moi. Dans mon cas, c'est moi, puis dans ton cas, c'est toi.
Oui.
Puis dans ton cas, Jen, c'est toi. Mais que le document sert à l'enseignant. Parce qu'en bout de ligne, je sais que pour les prochaines semaines, je veux me concentrer sur X, Y, Z, que j'ai choisi de manière intentionnelle en fonction de mon profil de classe puis de mon curriculum. Puis là, je peux faire des choix éclairés par rapport à... Bon, je sais pas moi, j'ai remarqué que mes élèves en quatrième année, au niveau de la structure de phrase, c'est difficile. Bien, je vais peut-être prendre un pas de recul pour m'assurer que l'élève a tout ce dont il a besoin pour pouvoir mm-hmm. prendre 2 pas vers l'avant par la suite.
Mm-hmm.
Juste mm-hmm. pour se situer dans tout ça. Alors, l'adulte, c'est lui qui l'utilise, ce document-là.
Mm-hmm.
Puis de mettre autant d'énergie pour le rédiger, puis de le mettre dans un dossier, puis de le ranger à tout jamais, c'est une perte de temps.
Mm-hmm. Alors, prenez le temps et trouvez la valeur qui existe dans ce beau document-là.
Oui, puis généralement, les directions sont super flexibles. Si le gabarit proposé ne plaît pas à l'adulte qui va l'utiliser, change le gabarit. changer de côté, horizontal, vertical, en bleu, en rouge, en rose. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est que c'est le contenu et non le contenant.
Oui.
Et que d'être capable de le réutiliser à long terme.
C'est le message qui compte. Oui. Alors, sur ce, est-ce qu'on a vraiment fait...
Je n'ai plus de pouces, alors j'ai fini.
Alors, c'est parfait. Alors, encore une autre fois...
On va faire d'autres pour le prochain épisode.
Ouh, wow, on rentre dans un autre domaine complètement. Alors, la prochaine fois, ça va être une discussion sur le domaine médical ou... Comment ajouter des pouces? Non. Alors, sur ce, on vous remercie encore une autre fois d'avoir écouté. Et n'oubliez pas, si vous avez des commentaires, des rétroactions, vous pouvez nous envoyer un courriel pour toute la classe à gmail.com. Désolée. Facebook, pour toute la classe. Et
Twitter.
Sur Twitter,
tout pour.
Je sais que c'est mélange, mais sauf que il y a beaucoup de personnes qui ont déjà pris tous ces comptes-là, fait que...
Mais non, on a juste choisi la crème de la crème.
Ah, la crème
de la crème. On l'a fait par exprès pour vous mélanger.
Alors, merci encore et à la prochaine!
Merci d'avoir écouté l'épisode. Vos animatrices sont Jennifer Davies, Mylène Brassard et Vicky Fauteux. Un remerciement particulier à nos directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamonde. Le montage est fait par Vicky Fauteux. La musique est créée par Ralph Grant et enregistrée par les Productions Guérin. Les dessins du logo sont créés par Francis Fauteux et notre logo est créé par Mylène Brassard. À la prochaine!